On ne peut plus peindre des intérieurs avec des hommes qui lisent et des femmes qui tricotent.
Oh, mais j'adore l'abstrait.
Vous parlez des fesses de votre grand-mère.
C'est une vision occidentale de l'Orient, en recherche de pittoresque et d'exotisme.
Un régal de culpabilité chrétienne.
Vous savez qu'elle fait de la peinture.
Pourquoi la dame, elle est toute nue?
Coucou vous! Bienvenue dans Vénus s'épilait-elle la chatte, le podcast qui déconstruit l'histoire de l'art occidental. Cet épisode est un peu spécial, on va y entendre plus de voix que d'habitude, parce qu'il a été réalisé en collaboration avec Yes, le podcast qui célèbre les victoires contre le sexisme, créé par Anaïs Bourdet, Marguerite Kiyok et Elsa Misquet. Dans chaque épisode, elles abordent un thème précis et diffusent des témoignages de personnes badass qu'elles appellent des warriors et qui le méritent bien parce que c'est souvent très courageux, très drôle et très touchant. C'est ce qu'on a fait dans cet épisode sur l'art. On a reçu et écouté des témoignages de personnes qui sont pas restées à leur place, qui se sont battues pour exprimer leurs idées, leurs forces et leur créativité, et ça fait beaucoup de bien d'écouter ça, surtout en ce moment. Quand Anaïs, Margaïd et Elsa m'ont proposé de faire cet épisode ensemble, je me suis dit que ça avait beaucoup de sens. Parce que un des fondements de Vénus s'épilait-elle la chatte, c'est de dire que l'art n'est pas neutre et ne l'a jamais été. Pendant des siècles, en Occident, l'immense majorité de la production artistique a été réalisée par et pour les dominants et a contribué à diffuser des représentations stéréotypées, largement dominées par le regard masculin. Cette organisation ancienne, c'est pas que des vieux trucs qui appartiennent au passé, ça a encore des conséquences très concrètes sur le marché de l'art contemporain aujourd'hui, qui en grande majorité est détenu par des hommes blancs, et où les personnes minorisées doivent d'autant plus se battre pour se faire une place. C'est aussi un sujet qui, à titre personnel, me parle beaucoup, parce que j'ai fréquenté le milieu de l'art quelques années, avant d'en partir en courant. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, et c'est là-dessus qu'on a commencé la discussion.
Alors Julie, on a vu que tu avais fait notamment l'école du Louvre, qu'ensuite tu as travaillé 2 ans dans une galerie, et que dans ces deux milieux-là, tu as été confrontée à un sexisme, mais surtout à un énorme mépris de classe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Ouais, je pense qu'il y a énormément de classisme, c'est le moins qu'on puisse dire, dans ces milieux. Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'école du Louvre, je suis arrivée par équivalence. Donc déjà, je suis arrivée par rapport aux gens de ma classe avec l'impression que je piquais la place de quelqu'un, parce que ce qui est faux. Hein. Mais voilà, et en plus, moi, j'avais pas de particules et je venais de la fac. Donc j'étais doublement une gueuse, si tu veux. Et après, quand j'ai commencé à bosser dans les galeries, bah, c'est la même chose, mais en pire. En fait, c'est un milieu qui est hyper tourné vers l'entre-soi.
Ouais.
Où en fait, si t'as pas les codes, si tu viens pas d'une famille limite qui est cliente de la galerie ou de l'expert ou du vendeur indépendant, en fait, c'est très très compliqué quoi de se repérer dans ce milieu-là. Moi, je bossais dans une galerie, enfin la dernière où j'ai bossé, c'était une galerie d'art déco qui vendait des meubles années 20, années 30, enfin des chefs-d'œuvre, mais c'était des tables à 400 000 balles quoi.
D'accord. Moi, j'en ai 2 comme ça chez moi.
Ah ouais? Je les ai pas vus, tu les caches bien?
C'est d'être féministe islamo-gauchiste, ça rapporte grave.
Ah bah, tu m'étonnes.
Hyper rentable. Non mais tu sais, du coup, c'est hyper bizarre quand toi, t'es, enfin, en tant qu'assistante de galerie, tu dépends de la convention collective des vendeurs et des vendeuses. Donc, tu vois, il y a quand même un écart assez significatif entre ton salaire et les trucs que tu vends. Donc, c'est un peu chelou. Et du coup, en fait, c'est un milieu qui est pétri de codes, de trucs, mais incompréhensible, en fait, aux communs des mortels. Et moi, je me rappelle qu'une fois, j'étais en stage dans une société de vente aux enchères et je devais appeler des clients qui étaient intéressés par une commode ou Dieu sait quoi. Et j'en appelle un et il me raccroche à moitié au nez. Il me dit « Écoutez, j'ai un dîner. Bon, je verrai après mon dîner. » Bon. Et moi, je vais voir mes boss et je dis « Bah, j'ai voulu faire un trait d'esprit, tu vois, je pensais être drôle. » Et je dis « Bah, il a un dîner mondain, il nous rappelle. » Et là, les gars, ils ont éclaté de rire, mais genre, ils étaient morts de rire, ils étaient pliés en deux. Et genre, il me dit « Mais ma chère, mais enfin, mais tous les dîners sont mondains. »
Mais bien sûr.
Et les gars, ils étaient morts de rire. Et j'ai toujours pas compris ce qu'il y avait de drôle, tu vois.
C'est un euphémisme. Génial, donc grosse ambiance.
On peut passer au témoignage, du coup. Alors, moi, j'avais juste envie de dire un grand merci, déjà, pour commencer à toutes les auditrices qui nous ont écrit, parce qu'il faut savoir qu'on a reçu énormément de témoignages pour cet épisode. Et surtout, beaucoup d'auditrices qui ont des projets artistiques en cours et des très, très belles idées. Alors, malheureusement, on va pas pouvoir parler de tout ici, mais en tout cas, merci beaucoup pour vos messages. Et par contre, ça a été assez difficile finalement de trouver des témoignages de victoires, de warriors qui clashent des sexistes en fait dans leur milieu professionnel. Et on s'est un peu demandé pourquoi en fait, pourquoi dans ce milieu-là particulièrement ça avait l'air si difficile que ça de s'exprimer comme ça. Est-ce que toi tu as des explications, Julie?
Mais je pense que ça vient du fait que c'est un milieu qui est, comme on disait en intro, hyper basé sur un entre-soi où tout le monde se connaît, tout le monde se tient.
Et en fait, c'est un milieu où il y a énormément de dominations qui sont toujours les mêmes, mais il y a aussi des dominations spécifiques du fait que c'est un milieu où il y a vachement d'hommes riches, et donc il y a en plus ce côté pouvoir qui est transmis par l'argent. Il y a vachement le côté représentation aussi quand t'arrives de là, après tes études, et que t'es une meuf jeune, et qu'en fait on t'embauche pour faire de la recherche, mais que tu te retrouves à faire un peu le pot de fleurs. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et en fait, en gros, si tu ripostes, tu joues un peu ta carrière. Parce qu'en fait, si tu remets ton boss à sa place, ce qu'on devrait faire hein, dans un monde idéal, mais en fait, il connaît tous les autres galeristes de la rue, et en fait, t'auras plus jamais de job.
Ouais, tu peux te faire griller, il peut te griller très rapidement, quoi.
Tu te fais griller très très rapidement, quoi. Et c'est vrai que du coup, ouais, on a eu du mal, en fait, à trouver des témoignages, un peu comme vous faites dans Yes d'habitude, quoi, des trucs de clash, des super bonnes réparties qui remettent vraiment les gens à leur place. Parce qu'en fait, tu subis, ou alors tu t'en vas.
Ouais.
Moi, c'est ce qui m'est arrivé, en fait. J'ai été un peu la bouffonne du roi, hein, y a pas d'autre mot, pendant plusieurs années. Il y a une histoire qui était... Enfin, en vrai, c'est drôle, mais c'est en même temps dramatique. Mon boss m'avait accusé de voler les cuillères à la galerie.
Mais non.
Les cuillères.
Voilà. C'est qu'en fait, j'avais une pause qui était assez courte et j'avais pas beaucoup d'argent. Et à Saint-Germain, j'avais pas les moyens de dépenser 10 balles tous les midis pour aller manger à l'extérieur. Donc, je m'amenais ma gamelle et souvent, je prenais les couverts de la galerie parce qu'il y avait une cuisine. Et en fait, comme j'avais pas le temps de les nettoyer après, je les emmenais chez moi. Et sauf qu'en fait, un jour, mon boss m'a pris entre quatre yeux en mode « Julie, on a remarqué qu'il manquait 3 cuillères. » Mais très, très sérieux. Hein.
Oh.
Et en fait, c'était chaud, ça allait un peu loin, tu vois. C'était genre « Oui, mais si vous volez des cuillères, peut-être qu'un jour, vous allez voler un livre et peut-être qu'un jour, ce sera une œuvre. » T'es là « Mais oui, en fait, je vais voler la table à 400 000 balles. C'est une très bonne idée. » Et tu sais, c'était trop bizarre. En fait, c'était surréaliste. Et en fait... Mon boss, après, à la fin de cette discussion, enfin, qui était pas une discussion, qui était un monologue où moi, j'étais juste, j'étais tellement à l'ouest, en fait, je pouvais rien dire, tu vois, c'est vraiment des situations qui te mettent dans un état de débétude totale. Et en fait, après cette discussion, il me dit, Julie, je suis très content, vous avez...
On repart sur de bonnes bases.
Non, mais j'ai dû les repayer, ces cuillères à la con. Et 10 € la cuillère. Et parce que je les ai pas retrouvées chez moi, parce que je suis bordélique et que voilà, mais je déclare solennellement que je les ai pas volées. Et donc, en fait, je me rappelle qu'après ces discussions, mon boss me dit, je suis très content qu'on ait eu cette discussion, on a remis les choses à plat, on va partir sur de bonnes bases. Et moi, en fait, pendant cette discussion, j'étais là, mais je vais partir, c'est pas possible en fait. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui est assez caractéristique du milieu de l'art, c'est que tu peux très difficilement répondre et parler d'égal à égal parce que dans les faits, tu l'es jamais. Mais du coup, il y a un moment où il y a un trop-plein et en fait, tu te lèves et tu te casses, hein, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça.
Ouais.
Et je pense que du coup, c'est très compliqué pour des personnes qui sont encore dans ce milieu de témoigner. Parce que, en fait, je crie pas à la théorie du complot, hein, mais simplement, c'est très facile de les reconnaître. Et que, en fait, elles jouent potentiellement leur job, voire leur carrière, quoi.
Bon, alors, je précise pour celles qui nous écoutent et qui ont envie de témoigner, mais qui n'osent pas, que vous pouvez demander à être anonymisé complètement. On peut même modifier votre voix, si vous le voulez. Donc, voilà, on garantit pour les personnes qui en auraient besoin un anonymat le plus total. Donc, si jamais il y a des personnes qui n'osaient pas témoigner jusque-là, on vous le dit, on est capable de mettre en place tout un système pour garantir votre sécurité. Donc, n'hésitez pas si vraiment vous avez envie de participer. Et du coup, on va présenter les warriors de cet épisode. Mais avant ça, pareil, je t'ai vu parler d'une warrior très particulière. Est-ce que très rapidement, tu peux nous parler de Sonia Boyce et de son intervention à la Manchester Art Gallery?
Ouais, Sonia Boyce, elle a fait un truc trop badass. C'était en 2018. La Manchester Art Gallery, c'est un musée qui est surtout célèbre pour ses peintures de pré-raphaélites. Donc, une espèce de boys club anglais relativement sexiste. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a décroché une de ses œuvres qui, en fait, représente Hylas et les nymphes. Je vais pas refaire toute l'histoire, mais en fait, les nymphes, il y en a 6 ou 7 et c'est des clones, c'est toutes les mêmes.
Mm.
Et elles sont vraiment, disons qu'elles ont un rôle complètement décoratif, quoi.
Ouais.
Et en fait, elle l'a décroché, elle a fait tout un dispositif qui s'inscrivait dans le cadre de sa... C'était pas une résidence, je trouve plus le terme, mais on va dire ça. Qui s'inscrivait dans le cadre de sa résidence en tant que curatrice dans ce musée. Et elle a laissé le cadre vide, elle a laissé un texte en expliquant pourquoi cette œuvre était retirée. Elle a laissé plein de post-it en invitant les visiteurs et les visiteuses à s'exprimer sur ce qu'ils pensaient du retrait. Du coup, c'était hyper pédagogique, en fait. C'était pas du tout de la censure. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que moi, cette histoire, j'ai entendu, c'était sur France Culture. C'était une pastille de 5 minutes qui disait la censure, voilà. Et c'était pas du tout ça en fait. Et c'est super intéressant de voir en fait comment les choses sont traitées, enfin plutôt pas traitées là dans, en l'occurrence, oui. et comment on déforme les actions des gens qui font des choses hyper intéressantes. Moi, ce qui m'a vachement frappée, c'est cette espèce de peur panique de la censure. Mmh. Mais c'était pas que en France d'ailleurs. Je me rappelle, il y avait un article dans le Guardian d'un mec, un journaliste s'appelait Jonathan, je sais pas quoi. Et enfin bref, et Jojo, il était pas content du tout. Et il avait titré un truc mais absurde, genre. En fait, il avait rien compris. Il avait pas du tout compris ce que c'était le principe de l'action. Et il était scandalisé. Et le titre, c'était un tableau vaguement érotique et retiré des collections de la Manchester Gallery. Est-ce que Picasso est le prochain? Enfin genre. L'homme blanc, le martyr des temps modernes, quoi.
C'est systématique, hein. On voit que maintenant, quand Alice Coffin dit qu'elle ne lit que des livres de femmes, il y a le pays tout entier qui se soulève, alors que qu'est-ce qu'on en a à foutre quand même de ce qu'elle met
mais
dans sa bibliothèque?
C'est clair.
Et qu'on est quand même nombreuses aussi à faire ça, ça devient un scandale d'État. Donc ouais, il y a toujours une résistance et une levée de bouclier gigantesque devant chaque action qui va dans le sens de l'égalité et des représentations plus justes, c'est systématique.
Ne serait-ce que du fait de s'interroger, en fait.
Oui, voilà, quoi. Juste tu poses une question, juste... Ouh là, dis donc, qu'est-ce qu'elle a celle-là?
C'est ça, là le Le concept du retrait du tableau repose sur le fait que ça ouvre des discussions et on arrive à parler de censure, c'est quand même extraordinaire.
Exactement, et en fait les personnes qui crient à la censure, ce qui est assez frappant, c'est que c'est des personnes, c'est les mêmes qui disent qu'on peut plus rien dire, et qui ont elles-mêmes une liberté de parole extraordinaire sur tous les médias, à tous les niveaux en fait.
C'est clair.
Et qui se sentent menacées dans leur personne, mais qui en plus ne s'étaient pas du tout intéressées à ce que Sonia Boyce proposait dans cette action.
Ouais.
Parce que c'était pas du tout ça qu'elle proposait en fait, c'était de s'interroger collectivement sur comment on présente les œuvres, dans quelle mesure on fait un effort en tant que conservateur, conservatrice, pour sensibiliser le public au sexisme dans l'art, qui est quand même pas un petit sujet, je veux dire, qui est quand même un gros topic depuis la Renaissance, en gros. Et c'était quelque chose, justement, de super intelligent, de très réfléchi, de très ouvert. C'était un retrait d'une semaine et c'était annoncé, hein, y avait pas de suspense.
Ouais.
Et en fait, tous ces vieux gars blancs-là sont venus chouiner à la censure, quoi.
Comme d'hab, j'ai envie de dire. C'est assez pareil, Walt Disney a décidé de recontextualiser un peu les extraits racistes de ses anciens films, donc sans les censurer, mais en tout cas les recontextualiser. Et c'est pareil, on assiste de nouveau à une vague gigantesque d'eczéma parmi les hommes blancs et conservateurs. Et d'hyperventilation également. Mais bon, écoute, on va continuer en tout cas à mettre en valeur celles et ceux qui font bouger les choses. Et du coup, Elsa, tu vas nous présenter notre première warrior.
Carrément, Lila, une super warrior qui est aux Beaux-Arts de Tournai en Belgique. Et donc, elle fait partie du conseil étudiant avec lequel elle a décidé d'organiser un événement de sensibilisation pour la semaine du 8 mars. Et les réactions, évidemment, encore une fois, ont été assez intéressantes.
Et on s'est dit que c'était le moment de mettre en route peut-être un mouvement. Donc la première action, c'est que le lundi, on a invité toutes les personnes concernées, donc en mixité choisie, dans un groupe de parole pour parler du sexisme et des oppressions sexistes au quotidien. On a pu discuter, c'était un moment assez intense. Et à la suite de ça, on a décidé des témoignages qu'on garderait ou que les personnes voulaient bien partager pour faire un atelier de collage féministe. Donc on a écrit ces témoignages et le lendemain matin, on les a collés partout dans l'école. Forcément, il y a eu des réactions plutôt négatives en fait. Plutôt de l'ordre de « oui, mais en tant qu'homme, je me sens attaquée quand j'entre dans le hall de mon école et qu'il y a ce genre de choses et... » C'était pas étonnant, mais quand même assez choquant d'avoir ces retours qui étaient de l'ordre de « je vois un témoignage de violence sexiste » et plutôt que de tout de suite avoir de l'empathie pour les victimes, « je me sens moi attaquée en tant qu'homme ». Donc les collages étaient censés rester pendant la semaine et le jeudi matin, on arrive à l'école, il n'y a plus rien sur les murs, tout a été arraché. Alors en tout premier, je vais voir l'administration, je leur demande s'ils y sont pour quelque chose, ils me disent « mais non, pas du tout, on n'a rien à voir avec ça, nous on était d'accord avec votre action, il n'y a pas de problème ». Donc je repars et on décide d'écrire un communiqué qu'on affiche partout dans l'école, qui s'adresse aux étudiants et aux étudiantes et qui, dans les grandes lignes, dénonce la violence d'arracher ce genre de témoignages et aussi... l'étonnement face au manque de dialogue et pourquoi ne pas venir nous parler directement. Vous savez qui on est, c'est quand même le conseil étudiant qui a fait cet événement.
Une heure plus tard, une réponse est affichée à côté de chaque communiqué. Une réponse vachement sale. Petit 1, orthographe désastreuse. Petit 2, syntaxe à revoir. Et petit 3, bravo l'anonymat, 3 petits points, qui est lâche. Et c'est signé la direction. Donc évidemment, on n'y croit pas, on se dit que c'est un troll, quelqu'un qui cherche simplement à nous énerver encore plus. Et moi, je vais voir directement la direction pour leur dire « Écoutez, j'ai l'impression que quelqu'un a usurpé votre identité, peut-être que vous voulez être au courant. » Et là, je tombe sur le directeur qui me dit « Non, non, c'est bien moi. » Donc s'ensuit une conversation de 10-15 minutes qui monte de plus en plus dans les tours et il ramène toujours son argumentaire au fait qu'on n'a pas signé le communiqué. Il réussit tout de même à glisser « Oh, moi, j'étais pas là pendant qu'il y avait les témoignages, mais bon, j'en ai aperçu un ce matin et franchement, c'est quand même d'assez mauvais goût. » Donc là, je m'énerve carrément et en gros, je finis par partir en disant « Vous voulez qu'il soit signé le communiqué ? Eh ben on va le signer, il n'y a pas de problème ! » Donc en allant chercher un stylo, je raconte toute cette histoire aux personnes qui ont participé à l'événement. Je vais dans toute l'école signer tous les communiqués. Et là, je redescends dans le hall et il y a un groupe de personnes qui s'est formé devant un des communiqués. Et en gros, la plupart étaient des femmes, mais elles ont toutes signé le communiqué. Il y avait des profs, il y avait des étudiantes. Et là, pendant 2 heures, en fait, on s'est posé, on a parlé de ça... Et puis le directeur a fini par sortir de son bureau, et les 2 profs présentes sont allés directement lui parler, et donc on a rediscuté avec lui, et il a fini par s'excuser, même si c'était, par peur probablement d'une guerre qui allait lui tomber dessus. Mais ça a lancé un mouvement, c'est ce qu'on souhaitait faire à la base, et la réaction du directeur a été vraiment un déclencheur à un grand mouvement de solidarité, et ça nous a vraiment fait du bien.
Eh ben,
bravo Lila.
Du haut niveau quoi.
C'est quoi ce directeur?
Non mais
c'est une blague quoi.
Il est éclaté leur directeur. Franchement, changez tout de suite de directeur les gars. Enfin, pas du tout.
Il faut cibler là. Il faut cibler contre lui là.
Ah là 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 là. Enfin, moi, ce qui me rend ouf, c'est comme d'hab, les mecs qui font du ouin-ouin, qui se plaignent de se sentir agressés quand on témoigne des agressions ou oppressions qu'on peut subir.
C'est vulgaire, mais sans déconner. On va essayer de faire
C'est de mauvais goût.
On va essayer que nos réalités soient un petit peu plus classe.
Ouais, tu peux décrire tes agressions. Mais de façon plus classe, ouais, plus élégante. Et ça m'a rappelé, ça m'a fait penser l'autre jour, en fait, sur Instagram, j'ai partagé donc, le dernier épisode des Couilles sur la table qui parle de comment les papas, en fait, doivent prendre plus de place dans l'éducation de leurs enfants, ce qui me semble vraiment un truc vraiment hyper basique. Hein. Ouais. Et il y a un mec qui me répond oui, mais moi, je suis papa, et en fait, voilà, j'ai lu des livres pendant la grossesse, et franchement, quand on est déjà convaincu, c'est un peu pénible de lire ce genre de choses.
Oh
et j'étais là, mais tu te fous de ma gueule, enfin, genre, en fait, désolé que tu sois. Pénibilisé, que tu sois triste, mais en fait, il y a un moment, là, on parle pas de toi, en fait, c'est pas toi le sujet, quoi. C'est hallucinant à quel point ils sont auto-centrés.
Ouais.
Et genre, ah non, mais moi, je me suis sentie agressée. Mais en fait, on t'a pas sonné, en fait.
Et surtout,
tant mieux
on parle
si
d'agression, en fait. Comment ça peut être toi, la personne agressée, je comprends
c'est
pas.
C'est un truc de mal. Non, mais ils me rendent vraiment. Enfin, c'est fatigant, quoi, toutes ces réactions, et c'est toujours
vous
pareil.
Vous nous épuisez, Elsa, on va finir par la perdre. Voilà. Calmez-vous, les mecs.
Donc, voilà, désolé d'avoir osé partager des revendications de progressisme, en fait. C'est vraiment incroyable de ma part d'avoir osé faire ça. Donc,
quel culot.
Vraiment désolé.
Ouais. Ouais, c'est intéressant aussi d'avoir ce témoignage-là de Lila, parce que j'ai l'impression que ça bouge quand même pas mal dans les écoles d'art en ce moment. On entend quand même pas mal.
Il y a plein de campagnes. Ouais.
Voilà, en ce moment. Donc,
Balance ton école d'art, d'ailleurs, je crois. Ça s'appelle. Il y a une campagne qui s'appelle comme ça.
Exactement, ouais. Et d'ailleurs, à Marseille aussi, chez nous, ça bouge aussi, quoi. Et on se demandait aussi, Julie, si tout ça, toute cette résistance des mecs.
Au changement
dans les écoles d'art, est-ce que c'était pas dû aussi au fait que l'enseignement de l'art, finalement, a longtemps été réservé aux hommes.
Ça a complètement à voir. En fait, les femmes artistes, elles, en gros, jusqu'aux années 1860, même plus tard, les beaux-arts, c'était 1897, je crois. Elles pouvaient pas, en fait, étudier. En fait, c'est quasiment un miracle qu'il y ait eu des femmes artistes avant, parce qu'on leur mettait vraiment des bâtons dans les roues, enfin, presque littéralement. Et la plupart des femmes qui étaient artistes, c'était des filles d'artistes, en fait. C'est ce qu'on voit dans le portrait de la jeune fille en feu. enfin qui est non seulement un chef-d'œuvre, mais en plus c'est très très juste historiquement. Marianne, l'artiste, est fille de peintre.
Donc, juste pour préciser, pardon, je coupe, mais donc c'est le film de Cécile Sciamma qui est sorti.
Céline Sciamma
qui est sorti donc l'hiver dernier et qui raconte l'histoire d'une artiste qui est amenée à faire le portrait d'une jeune fille noble avant son mariage. Voilà, pour faire le pitch.
Incarnée par Adèle Haenel.
Par la merveilleuse, la formidable Adèle Haenel. Merci Adèle.
Oui, donc c'est, on imagine que plus on aura d'enseignantes et d'enseignants, enfin en tout cas de personnes minorisées représentant du corps enseignant aussi, plus on pourra faire avancer, plus on pourra soutenir les initiatives étudiantes, etc. quoi.
Ouais, voilà, mais c'est vrai que là c'est encore hyper lent. Enfin, tu parlais de balance ton école d'art. Il y a aussi My Art Not My Ass. Il y a plein de collectifs qui sont en train de se créer en ce moment. Mais ça a clairement à voir, je pense, avec... Enfin, déjà, on vit dans une société sexiste, patriarcale et raciste, bon, spoiler, mais en ce qui concerne le milieu de l'art, il y a tout ce passif où, en fait, les femmes ont été objectifiées et cantonnées dans des rôles de modèles et de muses pendant des siècles. Mmh. Et, en fait, quand elles ont pu intégrer les écoles d'art, ça n'a pas évolué d'un coup, en fait, et ça n'a même pas vraiment beaucoup évolué. Moi, il y a une artiste que j'aime beaucoup, qui n'est pas très connue, mais qui devrait, parce qu'elle est vraiment très cool, qui s'appelle Marie Bashkirtseff, qui a écrit ses mémoires, et qui est une des premières artistes à étudier dans une académie en France. Et en fait, elle raconte que, en gros, elle devait être genre un peu bonne pour que ses profs l'aiment bien, et du coup, lui mettent des bonnes notes et lui accordent de l'attention. Et du coup, il y a un peu ce truc, tu vois, de ce glissement de « vous avez été des modèles et des muses, ok, maintenant, on vous accepte dans les écoles d'art », mais le but, c'est quand même toujours de flatter notre regard, tu vois.
Ouais, ouais.
Et ça, bah, tu vois, Marie Bashkirtseff, elle écrit ça dans les années 1880, grosso modo.
Ouais.
Et tu vois que bah, 140 ans plus tard, bah non, pas trop, en fait. Et là, il y a eu un article du Quotidien de l'Art la semaine dernière sur les violences sexistes et sexuelles dans les écoles d'art. Et c'est effarant, en fait, parce qu'en fait, c'est tout ce qui fonctionne bien. Toutes les écoles qui prennent des mesures, qui font vraiment des actions, en fait, c'est des initiatives individuelles. Il n'y a aucun programme qui est mis en place à l'échelle de l'État pour vraiment sensibiliser, parce que c'est quand même une grosse base. Je veux dire, si tu ne fais pas une formation, une sensibilisation au début, bah après, t'es que au cas par cas et au réparer au lieu de prévenir, quoi.
Mmh.
Et donc ça, il n'y a pas. Et en fait, tu vois que toutes les solutions mises en place, bah, c'est comme ce qu'on entendait dans le témoignage, en fait. C'est des choses qui reposent sur des initiatives individuelles, qui sont certes cool, mais qui sont parfois réprimées de façon hyper violente, comme là, en fait.
Oui, mais je le vois, c'est d'autant plus important du coup que les enseignants et enseignantes aussi travaillent sur ces sujets-là. Moi, je suis enseignante, alors pas en école d'art à proprement parler, mais en école d'arts appliqués, en école de graphisme, et je me rends compte que les professeurs aussi diffusent un regard blanc, en fait, sur la culture visuelle. Et je me suis retrouvée notamment une fois en jury avec un élève qui s'était approprié un objet de torture qui venait d'un génocide qui avait eu lieu en Chine et qui s'était complètement inspiré de cet objet de torture pour en faire une marque de bière et un packaging de bière. Et moi, je me retrouve face à cet élève qui me présente ça. Je me décompose complètement pendant le jury. Je l'ai évidemment allumé après. Mais il a fallu que je me retourne vers toute la classe et que je fasse un point appropriation culturelle, même un point génocide. Ça, je pensais pas que j'aurais
à le faire. On est même au-delà de l'appropriation culturelle. Voilà. C'est de mauvais goût de.
Et de dire, enfin, il faut qu'on ait du recul sur les images qu'on produit et vous êtes garant aussi d'un certain paysage visuel quand vous serez professionnel puisqu'en tant que graphiste, on peut être amené à faire voter des gens pour quelqu'un, à vendre un produit, mais donc aussi, on peut aussi conscientiser au passage, ou en tout cas éviter de faire des énormités comme celle-là. Et le professeur qui avait suivi ce projet-là n'avait pas du tout capté où était le problème, en fait. C'est surtout ça qui m'a choqué. Lui-même est tombé des nues et quand j'ai du coup défoncé ce travail, il était là, ah mais c'est vrai, j'ai pas capté.
J'y ai pas pensé.
Voilà, j'ai pas vu le problème. Enfin, c'est gravissime. Donc, c'est pour ça que je pense qu'aussi, voilà, effectivement, il faut que dans l'enseignement aussi, on ait des formations, on propose des micro-cursus, mais en tout cas, pour ne pas laisser passer sans aller non plus jusqu'à tout déconstruire, parce que tous les profs n'auraient pas l'envie, j'imagine, de le faire, vu les résistances qu'il y a, mais une formation minimum pour au moins ne pas laisser passer des projets qui véhiculent des idées racistes, sexistes, homophobes, etc. quoi.
Mais ouais, c'est pas possible ce truc-là. C'est dans la déshumanisation la plus totale. Enfin, c'est indécent, quoi.
Ah, j'en revenais pas. Le pauvre, je l'ai fait pleurer, mais par contre, je pense qu'il fera plus jamais cette erreur. Vie, mais je préfère le faire pleurer lui plutôt que de choquer tous les gens concernés, toutes les familles qui peuvent tomber sur ces packagings, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'était ma petite anecdote en tant qu'enseignante dans des domaines artistiques. Faites votre boulot, les enseignants. Merde. Bien, on va passer à notre warrior suivante et c'est toi, Marguerite, qui nous la présente.
Et oui, mais parfois un dessin qu'on fait dans son coin peut avoir un grand destin. Et la preuve avec l'histoire de Iris, alors elle habite à Barcelone. Et l'année dernière, elle a vécu un burn-out à son travail qui a été suivi d'une dépression assez sévère. Et elle qui dessinait pour son plaisir, bah, elle a totalement arrêté en fait. Enfin, plus de volonté, plus d'envie. Et puis un jour, alors qu'elle profite d'un week-end en famille, elle trouve la force de rebondir.
Je suis là assise, mon regard se perd dans la vue qui me fait face et je laisse mes pensées divaguer. Je pense à la forme du clitoris. Et je me dis que quand même ce truc ressemble drôlement à un papillon. Et si je vais rajouter des ailes ? Bon, je prends mes feuilles, je prends mes feutres, je commence à dessiner, pour la première fois depuis très longtemps. Je rajoute des vulves pour décorer les ailes, un vagin, un utérus et les trompes de Fallope pour représenter les antennes. Le Warriorfly est né. Je le renommerai plus tard Clitofly, mais le nom original c'était bien Warriorfly et c'était inspiré par vous. J'en dessine plein sur ma feuille, j'écris « The Clit Revolution is coming to bug you ». Je le montre à quelques amis qui trouvent que l'idée est très bonne, je l'affiche au mur de ma chambre et puis j'y pense plus. Quelques jours plus tard, la nouvelle tombe, Barcelone est confinée. Je trouve ça complètement dingue et je comprends vite qu'on est parti pour 2 voire 3 mois à ne pas pouvoir sortir de chez nous. Du coup, je me détends et ma créativité et imagination reprennent du service. Je commence à gribouiller dans mon carnet, me demandant à quoi ressemblerait cette page blanche si je la remplissais de boobs. Puis je me lance dans la création d'un monde à la bite. Enfin, je m'amuse, quoi. À la fin du mois de mars, toujours en confinement, par une opération du Saint-Esprit, je deviens copine sur Instagram avec Jessica, la fille qui est à la tête du compte La Trentaine, toi-même tu sais. Je lui dis que je dessine un peu. Et je lui envoie mes dessins, faits à la main, parce que j'ai pas d'iPad. Je lui envoie le Warriorfly, je lui envoie les mandala boobs, les mandala tub. Elle adore, et elle me propose d'en créer une version digitale pour la proposer à ses followers. Elle me fait découvrir la Maison des Femmes de Saint-Denis, une unité de soins qui accueille les femmes vulnérables ou victimes de violences à Paris. C'est la gynécologue Gada Hatem, docteur Gada Hatem qui en est à l'initiative, et l'artiste Ina Moja qui en est la marraine. Donc on les contacte, on leur propose de créer un mandala spécial pour elles au prix de vente de 1 euro, disponible sur la plateforme Eloasso, et de leur reverser tous les bénéfices. En fait, notre proposition tombe à pic puisque la Maison des Femmes s'apprêtait justement à lancer une grosse opération d'appel à dons afin de récolter les 90 000 euros dont la structure avait besoin pour engager 2 personnes nécessaires dans leur équipe en plus pour pouvoir répondre aux besoins accrus post-confinement d'aide de victimes de violences. Donc on décide que le mandala sera même carrément le goodies officiel de la collecte de la Maison des Femmes. Chaque donateur recevra en cadeau de remerciement un lien pour télécharger gratuitement ce qu'on appelait le mandala clit. La Maison des Femmes a pu, grâce aux nombreux dons, remplir son objectif et embaucher les 2 personnes supplémentaires dont la structure avait besoin. Et surtout, je souhaite continuer à soutenir les causes féministes qui me tiennent à cœur à travers mes dessins. J'ai 1000 idées et un peu de temps devant moi pour les mettre à exécution. Donc là, j'ai déjà un dessin qui est prêt, plein de clitos et plein de boobs en folie. Et j'aimerais beaucoup pouvoir le vendre et pouvoir reverser des fonds à une association qui s'occupe des femmes atteintes du cancer du sein. Voilà, la Clit Révolution ne fait que commencer.
Bravo Iris!
J'adore!
Trop bien!
Et merci pour ton témoignage. Ben, on espère que tu te remets de toutes, voilà, toutes les aventures de l'année passée. Hein,
ça, ouais, ça a dû être intense.
Ça dure vraiment intense. Et c'est vrai que là, on assiste quand même depuis quelques années. Hein, c'est vraiment pas nouveau quand même à une réappropriation par les femmes de la représentation d'un organe quand même qui a été inconnu pendant de nombreuses années. On va pas le répéter encore parce qu'on a eu l'occasion d'en parler de nombreuses fois dans ce podcast. Mais quand même, ça reste vu comme quelque chose de vulgaire encore aujourd'hui, hein, de représenter des clitos, ouais, des vulves, voilà, malgré les avancées de ces dernières années.
Surtout quand c'est des femmes qui les représentent.
Voilà, exactement.
Quand c'est des mecs, c'est un petit délire coquin, donc ça c'est joli, mais...
ou de la pornographie, ouais, voilà, ouais, enfin bref. Pour, voilà, et j'avais envie de vous parler du travail d'une artiste japonaise qui s'appelle Megumi Igarashi, et son nom d'artiste c'est Rokude Nashiko, et elle se définit comme une artiste manko. Alors, manko, ça veut dire vulve, en fait, en japonais. Donc, voilà.
Chat artiste, quoi.
Et justement, voilà, c'est exactement ça. Vous l'avez compris, hein, dans une société patriarcale où les représentations du sexe féminin, elle vit comme vulgaire ou sale, elle a envie d'en faire quelque chose, un emblème de fierté.
Ouais.
Donc, voilà, elle met les pieds dans le plat, ou plutôt les pieds dans la chatte. Hein,
dire, ça doit faire mal, là. Ça.
Donc, en 2014, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait un moulage de sa vulve pour la transformer, en fait, en kayak. Ah,
non mais j'adore.
Elle a fait un buzz international.
Elle, voilà, est trop elle, forte.
Voilà, regardez les photos si ça vous intéresse. Et en fait avec ce geste artistique, et ben en fait elle a été arrêtée par la police, mm-hmm, et inculpée pour obscénité encourageant des pulsions sexuelles dangereuses.
Ouais, c'est un peu comme les crop tops en fait. Hein. Un ça. Kayak en chat, un crop top, voilà.
T'es dans ta jalousie, je suis dans mon kayak chat.
Voilà. Alors qu'en fait, voilà, on parle quand même juste, juste pour situer, hein, d'une partie du corps humain en fait.
Donc, ouais, ouais, voilà. Qu'on n'a pas inventé ni créé.
Et c'est ça qui sert à faire les bébés, on est tous et toutes passées par là.
Voilà.
Donc voilà, libérons les mancos quoi. Hein.
Ouais. Libération des mancos. Bien, mais on va passer à notre warrior suivante, Claudine. Donc Claudine Cordani, elle a 54 ans et c'est une warrior de très haut vol. Je prends le temps de vous la présenter un petit peu parce que Claudine, c'est un peu une rockstar en fait. En 1984, information difficile à entendre, elle a été séquestrée et violée par trois hommes. Elle avait 17 ans à l'époque. Et quelques heures à peine après avoir été libérée, elle est allée porter plainte. Donc déjà ça, c'est super badass. Wow. Ça mérite un parterre d'applaudissements juste pour la meuf de 17 ans. Qui arrive à faire ça immédiatement, moi j'en reviens pas quoi, donc c'est mille clair. Bravo. Mais c'est pas fini, le procès aux assises devait se tenir en huis clos, c'est-à-dire sans public et sans médias, comme c'est de coutume dans les affaires qui concernent des mineurs. Mmh. Mais là, Claudine, elle refuse le huis clos, elle demande à ce que le procès soit public, et pour justifier sa décision, elle dira cette phrase au juge en charge de l'affaire, « Ce n'est pas à moi d'avoir honte ».
Wow.
17 ans, je sais pas si vous visualisez bien le level de courage et de badasserie de la meuf. Elle devient donc la première femme mineure, la première mineure tout court en fait de France, à refuser le huis clos pour ses violeurs. Donc voilà, c'est un tout petit extrait de l'immense warrior qu'est Claudine. Et dans son témoignage, on va découvrir que sa pratique artistique l'a beaucoup aidée à avancer avec ce terrible épisode. On l'écoute.
Je me suis reconstruite grâce aux mots des autres d'abord. Lire m'a permis d'ouvrir mon esprit, de voyager, de trouver des sources d'inspiration, de découvrir énormément de choses. Ça a été mon premier soutien, en fait, les mots. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire des collages. J'avais une vingtaine d'années. Tout ce qui est création m'a forcément aidée dans ce parcours vers la résilience. Je suis aujourd'hui un exemple vivant de résilience réussie. Car au-delà du fait que je suis toujours en vie, je suis une personne bien vivante, pleine de vie, je suis énergique, je m'intéresse à plein de choses. Et puis j'ai une vision vraiment écoféministe dans le sens où j'ai toujours été une recycleuse. C'est-à-dire que j'ai souvent récupéré des choses dans la rue, ça peut être des meubles, ça peut être tout un tas de choses, tout un tas d'objets sur lesquels ensuite je vais coller des choses. En fait, c'est une façon de m'exprimer. Donc, en fait, mes collages, c'est un peu un prolongement de moi-même. Les mots, c'est un équilibre, c'est un besoin intellectuel. J'ai besoin aussi de transformer ça en image. En fait, voilà, mes collages, c'est moi. Moi, c'est mes collages. Donc, je parlais récemment d'une mineure qui m'a contactée par Twitter pour que je l'accompagne porter plainte dans un commissariat. Bien sûr, j'y suis allée. Et puis en sortant du commissariat, nous avons discuté. Je voulais savoir comment elle comptait prendre un chemin de la résilience. Et puis la première chose d'ailleurs que je lui ai dite, c'est que ça n'était pas elle, évidemment, d'avoir honte par rapport à ce qu'elle avait subi. Qu'une fois qu'on s'était débarrassé de ça et que c'était très clair dans la tête des victimes et des ex-victimes, je pense qu'on peut mener à bien ce chemin vers la résilience. Donc on a beaucoup discuté, je l'ai invitée à venir faire une séance de collage chez moi et lui montrer, en discuter avec elle et puis qu'elle en réalise un, cet après-midi-là. Voilà, dès que je peux, j'essaye de partager des recettes, des outils, des façons de faire. En fait, faire des collages, ça ne demande pas de moyens financiers. C'est juste une question déjà d'envie, de besoin. À partir de tout un ensemble, je crée autre chose. Et je pense que cela vient du fait que avoir vécu un épisode aussi noir dans sa vie, en tout cas moi, je le vis comme ça, j'ai eu besoin de créer du beau. Et je me dis qu'en fait, il serait injuste que les personnes qui n'ont pas les moyens se disent « Ah mais je ne peux pas faire ça, donc je ne peux pas mener un chemin vers la résilience. » En fait, on n'a pas besoin d'argent. Voilà, ça, je voudrais vraiment le transmettre, le faire comprendre au plus grand nombre. Après, chaque personne, comme je disais tout à l'heure, se trouve le chemin, voire les chemins qui lui permettront de retrouver l'estime en elle et encore une fois de fabriquer du beau à partir d'une noirceur qu'elles ont vécue. En tout cas, moi, je continue d'œuvrer dans ce sens. Je mène plusieurs combats et il en est un très important.
Bravo Claudine, ça fait tellement du bien d'entendre une ex-victime dire d'elle-même qu'elle est une preuve vivante de résilience réussie.
Ah ouais, j'avais des frissons là.
Et puis c'est quelqu'un qui fait partie de l'histoire en fait, Claudine. Ah ouais. Parce que pour rappeler quand même, elle a été donc défendue par Gisèle Halimi, quand même grande warrior aussi, qui malheureusement nous a quittés. Mais c'est, enfin moi je suis vraiment fière de pouvoir l'entendre aujourd'hui.
Ah ouais, ouais, c'est vraiment.
Ouais, c'est génial.
C'est notre rockstar à nous, Claudine.
Ouais.
Donc voilà, pour revenir sur la résilience, donc un mot qu'elle utilise beaucoup dans son témoignage. La résilience, en fait, c'est notre capacité, ou non, à se remettre d'un épisode violent. Mmh. En fait, c'est comme la cicatrisation de la peau après une blessure. La peau, elle se reconstruit et parfois, ça laisse des traces visibles, parfois pas. Eh bien, quand on parle de santé mentale, de trauma, c'est ce qu'on essaie de reproduire. Ça fonctionne plus ou moins bien selon les personnes, selon les méthodes. Donc si on veut y arriver, c'est formidable que des personnes comme Claudine nous parlent de leurs propres moyens, de leurs propres techniques pour peut-être arriver à identifier une activité qui nous ferait du bien, qui au minimum nous permettrait de mettre la tête en pause quelques minutes ou quelques heures. Donc merci Claudine pour ce partage, pour l'aide que tu apportes aux nombreuses victimes qui te contactent et pour ton sens de la sororité au sens large. Et merci aussi pour ta présence sur Twitter, parce que pour info, vous avez peut-être déjà repéré Claudine sur les réseaux sociaux, parce que c'est elle qui tient un calendrier de la future démission de Darmanin.
Yes.
Tous les jours, elle lui rappelle qu'on attend sa démission, nous sommes telle date et Darmanin n'a toujours pas démissionné.
Mais qu'est-ce que tu attends?
Elle a même reçu des coups de pression à cause de ça, mais elle continue encore plus fort, du coup je la félicite à nouveau, bravo pour tout.
Yes.
Et si vous voulez la soutenir, vous pouvez vous procurer son bouquin qu'elle a auto-édité. C'est un plaidoyer pour la justice qui s'appelle La justice dans la peau, donc de Claudine Cordani. Et c'est vrai que la pratique artistique, ça a des vertus thérapeutiques. Mm. Moi-même, étant graphiste, j'ai des phases de production super intenses quand ça va pas, parce que ça me permet de poser le cerveau et de libérer du temps de disponibilité. Donc moi, mon truc, c'est pas le collage, mais c'est le dessin et la broderie. Je fais beaucoup de choses super minutieuses, super détaillées, super précises et assez répétitives parce que ça concentre toute mon attention et que ça me fait beaucoup de bien. Et quand en plus le résultat est satisfaisant, bah ça, c'est cool, ça met du baume au cœur et j'ai le sentiment de m'être un peu exprimé, quoi. Comme le disait Claudine, j'ai l'impression d'avoir fait du beau à partir du moche. Donc si vous avez des blessures à penser et que ça vous tente, n'hésitez pas à tester. Ça peut être le dessin, le collage, la broderie, la céramique, la peinture sur soie, le bricolage de meubles, la mosaïque, le make-up artistique, le scrapbooking, le tricot, peu importe.
Le crochet,
pourquoi pas. On se fout même de la qualité du résultat, c'est juste un moment pour soi-même, par soi-même.
Ouais.
Chacune et chacun trace son propre chemin vers la résilience et va à sa propre allure. Sachez en tout cas que les possibilités sont nombreuses et pour certaines super accessibles. Donc surtout n'hésitez pas et ne vous collez pas la pression sur le résultat, c'est pas ça qui compte. Et d'ailleurs Julie, il y a fort à dire sur les représentations du viol dans l'art. Est-ce qu'il y a des études ou des analyses qui ont été faites à ce sujet? Et s'il n'y en a pas, quelle conclusion toi tu tires de tes propres recherches sur le sujet plus particulier du viol dans l'art?
Ouais, alors ça c'est un énorme sujet. Moi ça fait... avant même de commencer le podcast, que je veux faire un épisode dessus.
D'accord.
Et en fait, j'en ai toujours pas fait parce que je trouve pas d'invité. Parce qu'en fait, c'est très compliqué de trouver des personnes qui sont à la fois historiens, historiennes de l'art, mais qui ont aussi ce prisme féministe des constructions qui est quand même indispensable, en fait, pour parler de ce sujet-là, pour vraiment prendre du recul sur le sujet. Il y a des choses qui se font. Il y a eu une expo au Louvre, notamment, qui s'appelait... Déjà, le titre était chelou, si vous voulez mon avis. Ça s'appelait « Posséder et détruire ». Voilà, mais disons qu'il y a des choses intéressantes dans le catalogue, il y a des choses qui ont été faites sur le sujet, mais c'est souvent des choses pas forcément récentes et surtout pas forcément déconstruites. Donc d'ailleurs je passe un appel, si quelqu'un connaît ou travaille elle-même sur ce sujet-là, écrivez-moi et on discute. Le sujet du viol, c'est omniprésent en fait dans l'art occidental, tout simplement parce que en gros du 16e au 18e siècle, le type de peinture qui a dominé dans la grande hiérarchie artistique construite par les académies, c'est ce qu'on appelle la peinture d'histoire. Donc c'est des œuvres qui sont inspirées de la mythologie, de la religion et de l'histoire antique. Et dans la mythologie, c'est surtout les métamorphoses d'Ovide. Et en fait, quand on le relit avec nos yeux d'aujourd'hui, c'est simplement des histoires de viol en série, en fait, avec des histoires parfois hyper violentes. Et Jupiter, qui est le roi des dieux, en fait, c'est juste un danger public. Et à chaque fois, il se transforme... Quand il se transforme en taureau pour aller violer Europe, il se transforme en aigle pour violer Ganymède, il se transforme en nuage pour violer Io. Enfin, c'est une liste interminable de viols qui sont dans la peinture très souvent représentés, mais avec une distance et avec une complaisance, c'est pas le bon terme, mais ce que je veux dire, c'est que les représentations sont tout le temps très belles. La violence est souvent soit absente, soit sublimée, voire érotisée. Ce qui fait qu'en fait, quand tu vois ces œuvres et que tu connais pas le sujet, en fait, c'est quasiment impossible de comprendre qu'il s'agit d'un viol. Et moi, j'ai fait des études d'histoire de l'art quand même assez longues, 6 ans. Et c'est des trucs dont on ne m'a jamais parlé. En fait, jamais le mot viol n'a été prononcé pour parler, bah c'est ça, de l'enlèvement d'Europe, de tableaux qui sont quand même super connus et qui sont jamais présentés comme ça. Et il y a des choses qui se font dans le milieu universitaire. Je dis pas du tout qu'il y a rien qui se fait, mais en fait, ce qui, moi, me rend un peu triste, c'est que ça quitte pas le milieu universitaire, ça n'arrive pas jusqu'au musée. Et qu'en fait, pour le public qui est confronté à ces œuvres, il y a à la fois une incompréhension, donc ça, c'est dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, c'est en fait une érotisation du viol, en fait.
Mmh. Ouais, ni plus ni moins.
Et c'est un sujet qui a été donc énormément dominé par le male gaze, notamment à travers ses représentations d'épisodes antiques. Mais il y a aussi même carrément des artistes qui ont fait des œuvres qui s'appellent le viol. Hein. Au 19e siècle, ça se voit pas mal. Et donc en toute tranquillité.
C'est ce que j'allais dire.
Et en fait, c'est un sujet qui a été finalement assez peu repris par des artistes femmes avec une portée politique. Ça existait principalement dans le cadre de ce qu'on appelle l'art féministe, donc années 60-70, notamment par une artiste qui est géniale, trop badass, qui s'appelle Anna Mendieta, qui a fait une performance, et maintenant on connaît les photos de cette performance, dans son campus dans les années 70, en réaction au viol d'une étudiante par un autre étudiant. Donc ça, c'était dans les années 71-72, et tu dis, bah c'est dramatiquement actuel, en fait.
Ouais, ouais, ouais.
Et les photos, je recommande pas de les regarder, elles sont super violentes. Mais en fait, c'est une des premières artistes, en fait, qui s'est emparée de ce sujet en changeant le biais du male gaze, en se le réappropriant comme un sujet politique. Et c'est ce qu'elle disait, en fait. Elle dit que elle pouvait pas rester à rien faire en tant qu'artiste, en fait, après ce truc terrible qui était resté impuni. Donc c'était hyper badass, hein, de faire ça à une époque où ça avait pas encore été fait. Mais à mon avis, enfin, faudrait creuser, je suis loin d'être experte, mais à mon avis, la raison pour laquelle ça a été très peu réapproprié par les femmes artistes, c'est qu'être artiste, c'est aussi une réalité économique. C'est que tu dépends d'un marché, tu dépends de marchands, de collectionneurs qui vont ou non t'acheter tes œuvres. Et qu'en fait, c'est un sujet qui est tellement sensible et que les gens veulent tellement pas voir, qu'en fait, j'imagine, c'est une hypothèse, hein, j'ai pas la réponse, mais j'imagine que pour plein d'artistes, c'était aussi un risque énorme à prendre au niveau de leur carrière. Donc c'est d'autant plus badass pour celles qui ont pu le faire.
Ouais, clairement.
C'est pas très bankable comme sujet, quoi.
Non, pas du tout, ça intéresse pas grand monde, en fait. Et surtout que comme l'art, c'est un milieu qui, historiquement, mais même encore maintenant, a toujours été dominé par les hommes, que le capital économique est majoritairement détenu par les hommes et que c'est eux qui sont majoritairement des collectionneurs, ben, c'est une double peine, en fait, pour les femmes artistes qui veulent parler de sujets féministes, tu vois, parce que ça intéresse beaucoup moins, en fait, tous ces hommes qui potentiellement peuvent leur apporter des revenus.
Ouais, ouais. Et est-ce que tu crois que les femmes artistes, en dehors de ces contraintes-là, du coup, qui les empêchent, est-ce que tu crois que globalement, elles sont plus engagées que les artistes hommes? Parce que celles qui ont percé, les Louise Bourgeois, etc., sont toutes très engagées, en fait, Niki de Saint-Phalle, elles ont toutes un message féministe dans leur création.
Oui, mais c'est des femmes qui, de leur vivant, se revendiquaient pas forcément féministes. Tu sais, ça, c'est assez fréquent chez les femmes hyper badass de cette génération, qui en fait ont vécu leur vie, bon, alors ce que je dis c'est très binaire, hein, pardon, mais en gros comme des hommes, qui du coup ont eu, tu vois, cette force vitale, cette envie, cet élan de pouvoir faire des trucs comme ça incroyables, du coup, bon, tant mieux, enfin c'est génial qu'elles aient fait ça, mais qui du coup n'ont pas forcément eu conscience des oppressions systémiques et tout ça. Et je pense que si elles s'étaient, c'est une hypothèse, hein, vraiment je suis pas sûre, il faudrait pousser bien plus en avant, mais je pense que si elles s'étaient revendiquées ouvertement féministes, ça aurait été plus compliqué.
Ouais, ouais, c'est fort probable, clairement.
C'est souvent comme ça que ça se passe.
Elles ont bénéficié de la protection d'un boys club, souvent, quoi. J'ai vu que Niki de Saint-Phalle, c'était notamment le cas. Ouais. Donc, bon, on va pas pour autant critiquer leur travail, mais d'une certaine façon, rappelons-nous que Catherine Deneuve existe. Voilà.
Never forget.
Never forget. Bien, on va passer à notre warrior suivante, et c'est toi, Marga, qui nous la présente.
Oui, je vais vous présenter Marion, qui fait actuellement une thèse en histoire de l'art à Pau, et elle a fait le constat, oh combien surprenant, qu'il y avait assez peu d'artistes queer exposés dans les musées. Donc par queer, on entend l'art queer, donc des regards qui remettent en question la norme hétérosexuelle, en fait, hein, papa
la binarité
et maman,
des voilà, genres
la binarité,
et des normes,
voilà, mise popularisée par la Manif pour tous, par exemple.
Par exemple. Entre autres.
Entre autres. Donc, même si, effectivement, il y a quand même quelques artistes qui ont pu être exposés dans des lieux prestigieux. Donc, elle me cite Claude Cahun, qui est photographe, qui a été exposé aux Jeux de Paume à Paris en 2011, ou Grayson Perry, qui fait de la céramique à la Monnaie de Paris en 2016. Mais bon, c'est un peu le syndrome de la schtroumpfette, quoi. On en trouve une, et hop, c'est bon, perché.
C'est la caution. Ouais.
C'est la caution pour tous les autres regards masculins qu'on a partout. Donc, pour Marion, il y a ce combat-là d'essayer de faire rentrer le regard queer dans les musées, mais il ne faut pas tout attendre de ce combat-là, parce que sinon, en fait, on y est encore.
On attendra longtemps.
Voilà, on va encore attendre quelques siècles, voire quelques millénaires. Donc, il faut aussi soi-même créer une communauté, donc à la fois d'artistes mais aussi un public,
ouais,
qui est capable donc d'aller voir ces expositions, qui est intéressé mais aussi d'acheter des œuvres.
Bien
parce
sûr.
Que finalement c'est comme ça aussi qu'on fait vivre les artistes. Donc c'est ce qu'elle essaye de faire en parallèle à son travail de recherche universitaire. Donc elle est commissaire d'exposition bénévole, donc c'est-à-dire en fait qu'elle choisit des œuvres et des artistes qu'elle met en avant pour une exposition avec pour exprimer un propos.
Mm-hmm.
Et donc son grand projet qu'elle mène actuellement s'appelle We Are Here, We Are Queer. Donc c'est une exposition en trois volets qui questionne notre rapport au genre, au drag et au queer. Alors le drag, vous savez, j'imagine ce que c'est, mais rapidement, c'est un art, une performance qui joue sur les stéréotypes de genre. Ça peut être des hommes qui se créent un personnage féminin, les drag queens, mais il existe aussi les drag queens, les femmes qui jouent sur les stéréotypes masculins. Donc c'est un art, si ça vous intéresse, qui a été popularisé par une série sur Netflix, une télé-réalité qui s'appelle RuPaul Drag Race. Si vous voulez juste vous faire un petit peu une idée, hein, c'est
fortement recommandable.
Voilà. Et donc Marion, pour le vernissage de sa première expo, elle avait organisé un show de drag, donc avec des artistes de la région de Pau. Et comme ça a bien marché, ça a plu, pour le deuxième volet, elle a été beaucoup plus ambitieuse, mais je la laisse vous raconter la suite.
Donc elle s'est tenue en février 2020 avec 9 artistes drag venus de plusieurs villes qui sont arrivés soit la veille, soit le jour même du vernissage. J'étais donc très stressée. La ville de Pau n'est pas une ville où les événements queer sont monnaie courante. Ils sont très rares. Alors le public, même s'il existe forcément, n'est pas constitué en tant que tel. J'avais peur d'avoir fait déplacer des artistes pour que la salle soit vide. Donc à l'approche de l'ouverture du vernissage, je suis sortie prendre l'air et dans le couloir menant à la salle d'exposition, donc je tombe nez à nez avec une quarantaine de personnes. J'ai tout de suite pensé qu'ils attendaient pour rencontrer les services de la maison des étudiants où nous sommes hébergés, mais ils me répondent qu'ils attendent pour l'exposition de Marion Cazot et qu'ils ont peur de ne pas avoir assez de place. Donc là, j'ai rigolé un peu nerveusement et je suis directement rentrée dans la salle d'exposition complètement paniquée. Donc c'est toujours le moment où je stresse de décevoir le public, les artistes, les services de la maison des étudiants, mon équipe, etc. Mais passer la panique, pouvoir ouvrir les portes et voir cette masse de gens défiler dans mon expo, c'était un vrai régal, accentué d'un sentiment de satisfaction très particulier quand je voyais des jeunes adultes avec des drapeaux ou des badges LGBTI. Certains ou certaines sont venus me dire que c'était la première fois où elles n'avaient pas peur d'être out dans l'université ou dans la ville, et ça c'est quand même très très important pour moi. Au final, le show s'est très bien passé grâce à des artistes et une équipe technique de qualité. Les gradins étaient pleins, on a même dû refuser des gens, ce que je ne pensais pas être possible. Et ce qui me rend si fière de ces événements, c'est que dans notre ville, Pau, il y a très peu, il y en a très peu, et ces moments-là, j'aurais aimé les vivre quand j'étais plus jeune. Et du coup, pouvoir contribuer à créer des espaces queer, même temporaires, c'est permettre à des gens de se sentir à leur place, acceptés et soutenus. Et même si cela signifie beaucoup de travail gratuit, des nuits blanches et de la précarité, on oublie ça en face du public, et c'est grâce à ça qu'on recommence l'année suivante.
Bravo Marion!
Ouais.
Super victoire, ça c'est de la warrior.
Donc elle dit aussi que en fait, le succès de son expo lui a permis de donner des interviews à la presse locale. Donc déjà un premier pas vers faire connaître au grand public ces regards-là. Et surtout en fait la bonne nouvelle c'est que ses financeurs, donc la région, le CROUS et l'université lui renouvellent leur confiance. Et donc pour le dernier volet de We Are Here, We Are Queer qui aura lieu en mai 2021, en principe, donc ce sera encore plus ambitieux que l'année dernière. Donc voilà, vraiment, vraiment bravo Marion pour ton ambition et pour tout le travail que tu as accompli.
Grande
parce
classe.
Que voilà, elle parle de précarité hein, mais faut savoir qu'elle cumule 2 jobs alimentaires en plus donc de sa thèse et de son travail de commissaire d'exposition. Donc pour elle c'est vraiment un engagement militant aussi quoi. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment admirable quoi, vraiment bravo
merci
Marion.
Et bravo.
Yes, bravo.
Et Julie, on a quand même l'impression que pour avoir des représentations queer dans l'art, faut souvent plutôt aller dans du côté des événements ou des milieux underground et que c'est pas forcément très visible dans les musées. C'est quelque chose que tu as observé aussi ?
Ouais, bah, c'est vrai, hélas, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme pour la déconstruction du viol dans l'art. Il y a des choses qui ont été faites, il y a même du matériau queer, entre guillemets, dans l'art ancien, il y en a beaucoup, qui est étudié encore dans le milieu universitaire, mais qu'on a du mal à présenter tel quel dans les musées. Mais c'est vraiment ancien, quoi. Si tu regardes les représentations de Michel-Ange et d'autres artistes de la Renaissance florentine, il y a une homosexualité masculine latente qui est super forte. Il y a pour le lesbianisme, c'est pareil, c'est moins visible parce que bah c'est toujours un peu plus compliqué parce que c'est des meufs, mais ça existe aussi de façon très ancienne. Il y a notamment la figure de Diane qui est très cool, que moi j'aime beaucoup à titre personnel, qui vivait dans la forêt avec les nymphes en non mixité et en fait qui est devenue de façon un peu sous-jacente un emblème du lesbianisme, et ça on le voit dans pas mal de tableaux, mais c'est de façon très suggérée. Il faut avoir en quelque sorte les codes pour lire ces tableaux. Et ça, en fait, pareil, c'est quelque chose, ouais, qui est étudié dans le monde des musées, dans le monde universitaire, mais qui est rarement retranscrit quand tu visites les musées.
Ouais.
Donc, en fait, il y a des œuvres qui sont hyper badass, hyper subversives, mais quand toi, t'as pas les infos en tant que visiteur qui n'est pas un universitaire conservateur, et du coup, tu passes à côté de ça, et c'est hyper dommage. Et il y a plein d'œuvres anciennes. Enfin, moi, j'ai été hyper marquée. Il y a 2 ans, j'étais au Prado à Madrid. Je suis tombée sur un portrait de la reine Marie-Louise à cheval en 1800 par Goya. C'est assez improbable, en fait, parce qu'elle est assise. Enfin, je connais pas les termes techniques des chevaux, mais elle a les jambes des deux côtés, quoi.
Et en Amazon.
Ouais, voilà, merci. Et elle a un uniforme officiel de la garde. Elle a un chapeau. Et en fait, ça remet complètement en question tous les stéréotypes genrés très binaires qu'on a l'habitude de tenir pour acquis. Mais pareil, c'est des choses qui sont pas présentées de cette façon dans les musées. Dans le même musée, il y a une peinture de Ribera qui représente ce qu'on appelait une femme à barbe qui est en train d'allaiter un enfant. Et en fait, ce tableau, il est incroyable, il date du XVIIe siècle. Et il est tellement actuel, en fait, sur des questions de transidentité, Et il est juste présenté, ah bah voilà, c'était la femme à barbe, la curiosité locale au XVIIe siècle. Et il n'y a pas vraiment de médiation un peu approfondie qui est faite sur ces sujets. Et c'est super dommage parce qu'en fait, c'est encore ce regard cisnormé, hétéronormé qui domine. Alors qu'en fait, des œuvres qui ont du matériau queer, il y en a énormément. Mmh. Et c'est vrai que tout le discours dominant en ce moment qui consiste à dire que c'est un peu illusoire, un peu artificiel de vouloir absolument intégrer tout le monde dans tous les domaines, que en Occident on est blanc et on est travail, famille, patrie en gros quoi. En fait, je pense que ce discours, ben je l'entends, mais je pense qu'il vient surtout d'une énorme ignorance parce que il est faux historiquement. Historiquement, il y a eu énormément d'autres modèles, même de modèles de famille. On a des traces de couples de femmes qui ont élevé des enfants ensemble, enfin depuis très longtemps. Et c'est aussi pour ça que la question des archives, elle est hyper importante dans la communauté queer, pour se rendre compte que non, c'est pas nouveau, non, c'est pas encore pire une mode, comme on dit dans la manif pour tous. Et c'est trop important, en fait, pour reconstituer un passé qui existe et qui est légitime.
Est-ce que tu crois que c'est lié au fait que la majorité des représentations qui sont faites à l'heure actuelle, alors je parle pas sur la transidentité parce que c'est encore un autre sujet, mais sur l'homosexualité par exemple, dans l'opinion publique, tout est lié au sexe. Il s'agit même plus d'amour, il s'agit même plus de quoi que ce soit d'autre que du sexe en fait. Est-ce que du coup ça expliquerait le fait que ce soit tabou encore à l'heure actuelle dans les musées ?
Mais oui, t'as raison, absolument. Je fais une digression, mais j'ai commencé Engrenage, la série de Canal+, 15 ans après Le Reste du Monde, et y a un gars qui est marié, père de famille, pseudo bien sous tout rapport, et en fait on découvre qu'il est gay. Et c'est terrible la façon dont c'est traité. Enfin, c'était il y a 15 ans, mais quand même, c'est en fait, le gars, il a une salle avec des godes qui font la taille d'un bras, avec des instruments de torture, avec... Enfin,
c'est un déviant.
Fantasme. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Il y a une espèce d'association hyper chelou, pas du tout réaliste en plus, entre l'homosexualité et la communauté LGBTQIA+, en général, et une sexualité qui serait déviante, entre guillemets, qui serait extrême, qui serait...
spectaculaire.
Trash, quoi. Mmh. Ouais.
Exactement, ouais. Et t'as raison, j'avais pas pensé, mais c'est possible que ça contribue aussi à moins laisser la place aux interventions queer dans l'art. Ouais, c'est pas impossible.
Ok, bon, alors on va travailler là-dessus.
Il y a plein de choses à creuser sur le sujet.
Il y a du taf.
Allez, encore un épisode après. T'es disponible la semaine prochaine, Julie?
Bah, quand vous voulez.
Bien, bah, en attendant ce prochain épisode, on va présenter notre dernière warrior. Elsa, tu nous présentes Marie.
Oui, Marie, donc, qui a 36 ans et qui est mère d'un enfant de 8 ans. Son fils a été diagnostiqué autiste et en fait, son entourage a eu des réactions très misérabilistes quand c'est arrivé. Ça l'a vraiment, vraiment saoulée. Elle nous raconte du coup ce qu'elle a fait pour rebondir.
Ça a fait que confirmer ce qu'on s'était dit avec son papa. Mais le diag officiel a entraîné l'annonce officielle aux amis, à la famille, au boulot, etc. Et les réactions ont été finalement très clichés, à savoir c'est dommage, vous méritiez pas ça, oh mon Dieu, c'est affreux. Et en fait, avec cette maternité, j'ai réalisé les injonctions qui étaient faites aux mères en général et aux mères d'enfants différents en particulier. En fait, on attend de nous d'être accablés par une espèce de fatalité qui nous serait tombée dessus. Et d'ailleurs, si au contraire les mères se battent, parce que bah, la différence, c'est un combat permanent dans une société validiste, elles sont généralement traitées d'hystériques pour changer. Et on ne se préoccupe même plus du père hein, dans l'histoire, puisque souvent les pères disparaissent du tableau quand il y a un handicap chez les enfants. Et donc, en gros, dès qu'on parle autisme ou différence en général, il y a cette espèce de pathos permanent dans lequel je me reconnaissais absolument pas. Du coup, après plusieurs mois à bouillonner intérieurement parce que j'avais l'impression de devoir éduquer tout le monde autour de nous dès qu'on parlait d'autisme, j'ai eu l'idée de dessiner nos aventures en BD et de les partager sur un blog. C'est un genre de format tranche de vie, très axé sur l'humour, et en gros, ça dit « oui, j'ai un enfant autiste, et en fait, c'est très cool ». Et ma petite victoire, grâce à cette BD, je l'ai eue le jour où j'ai reçu un message d'une inconnue sur ma page Facebook, où elle dit, je cite, « Je suis moi-même adulte autiste, et j'ai développé avec les années une allergie aux autismes moms, entre guillemets, qui sont complètement dans la démarche de guérison de l'autisme et de jérémiade, parce que, oh my god, tu te rends pas compte, c'est horrible, mon fils est autiste. Découvrir vos chroniques a été une réelle bouffée d'air frais. Je suis si heureuse que vous ayez mis sur pied ce projet et que le grand public puisse voir ce témoignage si bienveillant. Je tenais à vous en remercier. » Fin de citation. En bref, ce que je voulais dire, c'est qu'avoir un enfant différent, c'est cool. Et pouvoir en parler à travers l'art de la BD, c'est très jouissif. J'ai eu que des retours super positifs, comme le message que je vous ai lu. Et voilà, je compte bien continuer à déconstruire le mythe de l'autisme et des injonctions faites aux mamans d'enfants différents à travers l'art.
Bravo Marie.
Bravo, c'est génial, j'adore cette victoire. Je précise qu'à la suite de tout ça, elle a quitté son mec pour assumer pleinement son homosexualité.
Ça aussi, c'est de la badasserie.
Double victoire. Et du coup, voilà, ce que ça montre, c'est que l'art peut vraiment servir à processer une expérience difficile, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Claudine, hein, et donc à se réapproprier cette expérience et à la réécrire en fait avec ses propres mots. Juste sur le terme validiste, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. En gros, bah, c'est comme racisme ou sexisme, mais par rapport au fait d'être valide, c'est-à-dire de ne pas être, de ne pas avoir de handicap. Et du coup, bah, en fait, on peut faire subir une oppression validiste si on traite les personnes handicapées d'une façon vraiment spécifique ou différente.
Quand on les rejette, qu'on les discrimine.
Ce qui arrive quand même souvent dans l'espace public hein, quand on voit les difficultés d'accès à beaucoup de bâtiments,
au transport.
Au transport par exemple, c'est une discrimination en fait parce qu'on est tous censés quand même avoir le même accès aux services publics.
C'est ça.
Exactement, et c'est une discrimination qui n'est pas très visible parce qu'on n'y pense pas forcément en fait. On a de la chance d'avoir tout simplement ces deux bras, ces deux jambes, d'entendre, de voir, etc. Et que les personnes qui n'ont pas cette chance-là, ils prennent très 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 cher dans leur quotidien en fait. Donc juste le fait de ne jamais y penser déjà, c'est validiste
en soi.
C'est
un privilège. Voilà.
Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup à Marie pour ce témoignage.
Et bravo. Et du coup, ça donne super envie de la lire. Sa BD, c'est quoi le titre?
Alors, faut aller sur Facebook et vous tapez Titou autiste. Donc Titou T-I. T-O-U et autiste. Voilà, tout attaché.
Ça marche, merci Marga. Bien, et c'est le moment de se faire du bien, c'est l'instant self-care. Alors bah, du coup, cette fois, on a décidé que Julie, c'était toi qui la vraie. Tu nous entends ? Super. Du coup, tu vas nous faire du bien en nous parlant des Guérilla Girls. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Les Guérilla Girls, c'est un mouvement d'artistes qui s'identifient comme des femmes, qui a été fondé à New York dans les années 80 et qui fait un énorme boulot pour interpeller le public sur le sexisme et le racisme dans le milieu de l'art et dans les musées en particulier. C'est un mouvement qui compte énormément de membres, qui sont toutes anonymes parce qu'elles sont elles-mêmes artistes et que, bah, en fait, elles risquent un peu leur job. Et leur caractéristique, c'est qu'elles s'expriment en public avec des masques de gorille. C'est né d'un cafouillage entre guérilla et gorilla. En fait, ça leur a bien plu, elles ont gardé ça et maintenant c'est devenu leur marque de fabrique. Elles se sont formées en 85 en réaction à une expo du MoMA, qui est donc bah, des plus grands musées d'art moderne du monde occidental. Et le MoMA a organisé une grande expo de presque 200 artistes, censée présenter un grand panorama de la crème de la peinture et de la sculpture moderne. Et sauf que parmi ces artistes, il y avait moins de 17% qui étaient des femmes, et encore moins, j'ai pas trouvé les chiffres exacts, mais encore moins qui étaient des artistes racisés. Et le conservateur de cette expo a eu des mots très sympas, puisqu'il a dit que les artistes qui n'étaient pas dans cette expo devraient songer à remettre en question leur carrière. Donc les Guérilla Girls étaient un peu saoulées, et on les comprend, et c'est là qu'elles se sont dit que les musées c'était quand même un petit peu un temple en hommage à l'homme blanc, et qu'il était temps d'abord qu'on en prenne conscience, et ensuite qu'on commence à sortir de ces biais de représentation. Il y a une phrase d'une membre qu'elle dit dans une interview qui est assez parlante, la traduction c'est de moi, donc merci de votre indulgence, elle dit « Les souverains ont défini il y a des siècles ce que doit être l'art, et depuis on est coincé avec ça. Mais maintenant qu'on vit en démocratie, pourquoi est-ce que des milliardaires et des oligarques devraient définir ce qu'est notre culture visuelle ? Dans ce cas, ce que racontent les musées, c'est l'histoire du patriarcat et l'histoire du pouvoir. Mmh. » Ce qui est intéressant avec les Guérilla Girls, c'est qu'elles ont une stratégie de communication hyper bien rodée, avec des images très belles, très efficaces et souvent des messages assez drôles. En fait, elles ont mis ça au point parce que pendant cette fameuse expo du MoMA à New York, elles ont commencé à faire des manifs, des actions devant le musée, mais en fait, elles se sont rendues compte assez rapidement que bah ça fonctionnait pas. Que les gens étaient plutôt spontanément enclins à défendre l'institution et qu'elles passaient pour les hystériques de service. Enfin, ce qui est très louable en soi, mais là, en l'occurrence, ça les aidait pas beaucoup. Et du coup, elles se sont dit « Ok, nous, on sait qu'il y a un problème profond de discrimination, de représentation, mais comme a priori, on n'a pas forcément le public de notre côté, on va essayer de trouver des moyens qui nous permettent de nous faire entendre autrement. » Et en fait, comme elles sont artistes, elles ont mis leur talent à profit et c'est pour ça que leurs visuels sont hyper beaux. Une de leurs affiches les plus connues, c'est une image sur fond jaune qui reprend l'odalisque d'Ingres, un tableau hyper connu qui représente une femme nue, sauf que là, elles lui ont mis un masque de gorille. Et à côté, il y a les chiffres d'un décompte qu'elles ont fait au Metropolitan Museum de New York. Et les résultats de ce décompte, c'est qu'en 89, le musée comptait 5% de femmes artistes, mais 85% des nues qui étaient exposées représentaient des femmes. Elles ont refait ce travail deux fois dans le même musée, en 2005 et en 2011, et ce qui est effarant, c'est de se rendre compte que les chiffres sont quasiment les mêmes, à 20 ans d'intervalle. Et du coup, sur cette affiche, elle pose une question qui est assez sensée. Est-ce que les femmes doivent être nues pour rentrer au musée ? Et ça, elle le demande dans les années 80, mais ça fait écho à une histoire récente qui est pas du tout drôle, de cette étudiante qui a été virée, carrément virée, du musée d'Orsay, parce que soi-disant, sa robe était trop décolletée. On a beaucoup parlé de cette affaire et moi j'ai pas forcément de choses très pertinentes à apporter en plus, mais ce qu'on peut retenir c'est le contraste entre les œuvres présentées dans ce musée, qui est quand même le temple de l'objectification du corps des femmes, hein. C'est là qu'il y a l'origine du monde, il y a la source d'Ingres. Donc la nudité de ces œuvres, ça choque plus personne parce qu'elles sont présentées à travers le male gaze et qu'elles ont été adoubées par l'institution du musée. Mais voilà, une meuf avec un décolleté, bah on lui interdit l'entrée. Et ça, c'est dramatique parce que ça vient de l'institution. C'est l'institution qui te dit que ton corps dérange, que ton corps doit être caché. Bon, sauf avec un voile, apparemment. Et c'est très éclairant sur le contrôle social exercé sur le corps des personnes qui sont perçues comme des femmes. Et ce problème-là, il va bien au-delà du musée. Quand on parle de tenue républicaine et qu'on interdit à des lycéennes de mettre des shorts en été et que ce discours, il vient de mecs qui ont l'âge d'être leur père, voire leur grand-père, qui se sentent menacés à la vue d'une cuisse qui serait trop excitante, c'est quand même affolant sur l'ampleur de la culture du viol au quotidien. Bon, j'ai fait une digression, mais c'était important. Revenons au musée. Ce travail des Guérilla Girls sur les chiffres, il est hyper important parce que personne ne l'avait fait avant elles. Et que sans les chiffres, c'est compliqué de saisir l'ampleur du problème, voire même c'est très facile de l'ignorer. Et comme elles ont un énorme impact médiatique, ça a permis une vraie prise de conscience, pas encore vraiment au niveau des musées, mais en tout cas au niveau du grand public. Et ça montre que ce travail de recensement et de statistiques, il est un peu pénible à faire, mais il est nécessaire pour ensuite prendre des décisions adaptées. À ma connaissance, le seul comptage similaire qui existe en France, il a été fait en 2009 par Camille Morino au Centre Pompidou, qui à l'époque comptait entre 10 à 15% de femmes artistes dans sa collection. Et justement, ce comptage, il a été fait pour convaincre le directeur de l'époque que c'était pertinent de faire une expo sur les femmes artistes. Ça s'appelait Elle à Centre Pompidou, c'était une première en France et c'était hyper bien, mais ça a 10 ans, et depuis il y a des choses qui ont été faites, certes, mais ça avance quand même assez lentement. En revanche, dans le reste du monde, il y a pas mal d'initiatives qui existent. Par exemple, il y a des musées qui sont uniquement consacrés aux femmes artistes, c'est le cas de celui de Washington, et le musée de Baltimore a annoncé en décembre qu'en 2020, il achèterait uniquement des œuvres produites par des femmes. Alors vous imaginez que ça a fait couler pas mal d'encre, notamment par des gens qui avaient peur que les hommes soient discriminés, donc j'ai envie de leur dire « bienvenue ». Et c'est intéressant parce que ces protestations, c'est quasiment les mêmes que celles qui déferlent contre Alice Coffin depuis qu'elle a sorti son livre « Le génie lesbien » dont on parlait tout à l'heure. Dans ce livre, elle a eu le malheur de dire qu'elle lisait plus des livres écrits par des hommes et qu'elle allait plus voir de films réalisés par des hommes. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est très sensé, c'est que l'histoire de la création telle qu'on nous la présente, c'est l'histoire des hommes, et on nous apprend à considérer ce point de vue comme la position neutre et universelle au sein du monde. Et ce que dit Alice Coffin, en fait, c'est que la neutralité, ça n'existe pas, que l'illusion de neutralité, c'est en fait la subjectivité des dominants, et que l'histoire des femmes artistes, c'est l'histoire d'une invisibilisation, qu'il est grand temps de corriger, n'en déplaise aux hommes blancs qui sont vexés et qui, décidément, ne peuvent plus rien dire.
Achetez le livre d'Alice Coffin.
Et pour finir, je voudrais lire une affiche des Guerilla Girls qui est très drôle et qui s'appelle « Les avantages d'être une femme artiste ». Travailler sans la pression du succès, ne pas être en compétition avec les hommes, pouvoir s'échapper du monde de l'art grâce à vos 4 petits boulots, savoir que votre carrière pourrait décoller après vos 80 ans, être assuré que, quel que soit votre travail, il sera taxé de « féminin », voir ses idées reprises dans le travail des autres, avoir plus de temps pour travailler quand votre mec vous a largué pour une plus jeune, être cité dans les versions révisées des ouvrages d'histoire de l'art, et enfin, ne pas avoir à subir l'embarras d'être traité de génie.
Oh ah, c'est trop bien,
c'est bon.
Formidable.
Oh putain.
Et tu sais, pour contrecarrer un des exemples que t'as donné sur le fait de se voir coller l'étiquette féminin, moi en tant que graphiste, j'avais été sélectionnée pour réaliser le catalogue de la Biennale des jeunes créateurs en 2015, je crois. Et donc j'arrive devant un parterre de femmes qui m'ont sélectionnée parmi je sais plus combien de dossiers. À la fin de l'entretien, j'ai par curiosité, pourquoi moi, pourquoi pas quelqu'un d'autre? Et là, les 6 femmes, hein, des femmes, m'ont dit... Ce qui est bien avec vous, c'est que vous êtes une femme, mais ce que vous faites, on pourrait croire que c'est un homme qui l'a fait.
Oh là là.
Donc ma plus-value à moi, c'était d'être une femme. Elles étaient très contentes de faire passer une femme candidate. C'était leur petite action féministe. Mais elles ont réussi à me faire passer parce que ce que je fais, c'est minimaliste, c'est typographique, etc. Donc j'ai demandé si les femmes qui postulaient en dehors de moi mettaient des fleurs et des petits cœurs partout dans leur proposition, et je pense pas que ce soit le cas. Mais du coup, j'ai été tout soudainement très dégoûtée d'avoir été sélectionnée parce que j'étais pas sélectionnée pour les bonnes raisons.
Elles ont tout gâché.
Ça m'a gâché tout mon plaisir.
T'es presque un homme du coup.
Du coup, ça
c'est,
va.
C'est cool.
Du coup, c'est bon. Parce que c'était 6 femmes décisionnaires, mais le big boss, évidemment, tout juste au-dessus, était un homme. Hein, donc, fallait le convaincre. Donc voilà, j'ai réussi ma vie parce que je pourrais être un mec.
Super compliment, merci.
Super compliment, ouais. Voilà, mais c'est la fin de cet épisode Warriors dans l'art. J'espère
déjà
que ça t'a inspiré, c'est passé vite. Moi, ça m'a donné envie de sortir les toiles, les pinceaux et de dessiner le monde d'après, parce que le vieux monde, on n'en peut plus.
Merci beaucoup à Anaïs, Margaïde et Elsa qui ont eu l'idée de cet épisode croisé entre Yes et Vénus épilait-elle la chatte. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont témoigné, Lila, Iris, Claudine, Marion et Marie. Merci pour votre force et votre confiance. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a fait autant de bien qu'à nous. La musique, c'est Chica de Calendario des Cumbia Queers. Toutes les références sont dans la description de l'épisode et les œuvres sont à retrouver sur le compte Instagram @VénusLePodcast. Pour écouter les autres épisodes de Yes, c'est sur toutes les plateformes d'écoute. Et pour les suivre sur Instagram, c'est YesPodcast avec 3 S. Prenez soin de vous, je vous embrasse si vous le voulez bien et à très vite pour un nouvel épisode.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.